Nous allons reprendre le texte dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Vous avez probablement entendu parler une analogie entre Adam et le Christ dans les épîtres de Paul, surtout dans l'épître aux Romains. Dans l'un des épîtres, justement, Paul il déclare que le Christ est le dernier Adam, tandis qu'Adam est le premier homme. Mais voilà, il y a tant de différences entre ces deux Adam. Par le premier Adam, la deuxième mort est entrée dans le monde. Tandis que par le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, la vie éternelle nous est offerte. Et il y a encore une chose qui les différencie. L'une des grandes différences entre le premier et le deuxième Adam, rappelez-vous lors de la chute, qu'est-ce qui a poussé l'homme à accepter la proposition du diable? C'est le fait d'être comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Le soif du pouvoir, le soif d'autorité, de gloire, d'honneur, c'est ça le péché capital. C'est ça qui pousse l'homme à faire toutes ses erreurs dans sa vie. Nous voulons tellement de reconnaissance dans notre vie. Et même en psychologie, on essaie de justifier cela comme une estime de soi. Mais finalement, derrière, il y a toujours cette quête de pouvoir chez l'homme, cette quête de gloire pour devenir comme Dieu et même dépasser Dieu si possible. Or, on vient de voir ici l'image du deuxième Adam, lui qui s'est dépouillé, qui ne gardait pas son égalité avec son père. Voilà la différence. Paul montre clairement que Jésus-Christ, qui est à l'égal de Dieu et qui n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu, au verset 6, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a renoncé, c'est lui qui renonce. On ne lui a même pas demandé de le faire. C'est lui qui a renoncé d'être comme son père. Et ce n'est pas fini, il dit encore, il a pris la condition de serviteur. Le mot serviteur est encore acceptable, mais on va dire la condition d'un esclave. Il est devenu homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Et il s'est montré obéissant. Tout ce que nous venons de citer ici dans le texte nous montre jusqu'où le Seigneur est allé pour nous chercher, pour me chercher moi, pour te chercher toi, jusqu'où il est allé. Il a pris un grand risque en touchant même l'image qu'on peut donner de lui par la suite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est à cause, ou bien c'est grâce de cette humilité inégalée du Christ que beaucoup sont devenus ennemis de la croix. Si vous essayez de chercher ou de fouiller un peu pourquoi les autres religions, pourquoi ceux qui n'acceptent pas le Christ comme fils de Dieu n'est pas à l'égal de Dieu, c'est à cause de la croix tout ça. Et c'est compréhensible de voir des hommes et des femmes qui doutent la divinité du Christ. C'est normal en tant qu'être humain. Ce soi-disant Messie, mais qui se manifeste en serviteur, mourant, agonisant dans la honte, un Dieu qui meurt dans la honte, toute nue, sur le bois maudit. C'est normal que son image a été fortement abîmée. Jésus a non seulement accepté de se vider vis-à-vis de son Père, mais aussi vis-à-vis de nous, Il a payé un prix fort en acceptant ce nouveau statut. Je dis bien nouveau statut parce qu'il ne l'avait pas avant. Malgré la non-considération des hommes de ce qu'il a fait pour nous. Il est, comment je vais le dire, en quelque sorte victime de son amour. Il a manifesté son amour envers nous en se vidant, c'est-à-dire renoncer à tout ce qu'il avait. Il n'a pas voulu demeurer égal à Dieu, il a choisi l'humilité. Et par conséquent, cette humilité adoptée par le Christ est devenue un obstacle de foi pour la majorité des gens. On ne peut concevoir de penser qu'un Dieu puisse se laisser faire. On ne peut accepter qu'un Dieu se laisse malmener par les êtres qu'il a créés. Mais voilà, c'est aussi un aspect que nous devrons savoir, c'est que le salut qui a été fait à la croix, mes chers frères et sœurs, est unique en son genre. Unique parce que depuis que la terre est terre, un Dieu qui devient un être humain va dans le sens opposé de notre attente. Nous avons l'habitude de dire de gloire en gloire, d'honneur en honneur. Or ici, comme si on parle de quelque chose en dégressivité. Nous avons toujours cette tendance, je veux aller de gloire en gloire. Mais le Christ, de gloire en déshonneur. Donc c'est unique en son genre. Or le salut repose là-dessus. Toutefois, même si le Christ a choisi de ne pas être à l'égalité du Père, cela ne signifie pas du tout que sa divinité est mise en cause, loin de là. Au moment où il a souffert jusqu'à la croix, il a gardé sa nature divine jusqu'au bout. Et c'est très important de le souligner. Parce qu'il se peut que vous auriez à entendre quelque part dans des livres ou dans des conférences une hérésie par-ci par-là en disant qu'à ce moment-là, on lui a enlevé pendant quelques moments, pendant quelques heures, sa nature divine pour qu'il puisse mourir. Ça aussi, c'est une hérésie. C'est pas normal qu'un Dieu puisse mourir, alors on lui a enlevé pendant 2 heures, 3 heures, sa nature divine pour qu'il puisse mourir comme un être humain. Mais non, il a gardé sa nature divine jusque dans le séjour des morts. Le Christ agonisant à la croix et enterré est et reste toujours Dieu et humain. Donc c'est difficile à comprendre. Il est Dieu, mais il souffre. Il est Dieu, mais il meurt. Il est Dieu, mais il a été enterré. Oui. Et c'est là le mystère de Pâques. Et ces deux natures, Dieu et être humain, ne lui ont plus quitté à partir de la nativité et pour l'éternité. Et jusqu'à maintenant, le Christ a ce corps humain avec lui auprès de son Père. Alors pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que Dieu a pris notre nature humaine. Il est notre ambassadeur, le premier être humain qui est à la droite du Père. Qui nous représente déjà auprès du Père. Et grâce à cette nature humaine, nous aussi nous pouvons partager sa gloire prochainement. Moi qui n'ai qu'un être humain, accablé de péché depuis ma conception, je peux partager la gloire de Christ qu'il avait avant que le monde fût. Le Christ qui n'a jamais connu la souffrance expérimente la souffrance. Et nous qui étions mortels, dorénavant, nous partageons la vie éternelle avec lui. Alors face à cet amour immense de Dieu qu'il a manifesté par Jésus-Christ son Fils, une question s'impose en nous. Que dois-je faire alors en retour? Qu'est-ce que je vais faire en guise de reconnaissance? Et je vais peut-être vous décevoir, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que tout a été déjà fait. Quelle était la dernière phrase de Jésus à la croix? Tout est accompli. Il n'y a rien à faire. Il a tout fait. Alors nous ne ferons qu'honorer son nom. Nous ne ferons que proclamer cet amour au monde entier et que tout se mette à genoux devant lui. Ici, il y a une remarque de taille. Se mettre à genoux, dans la phrase que Paul vient de citer, se mettre à genoux devant quelqu'un ou une divinité peut paraître une image assez dure pour notre époque aujourd'hui. Et dans certaines religions que je ne citerai pas ici, on exige la soumission à Dieu dans leur religion. Mais nous, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu ne nous appelle pas à se soumettre à lui. Ce n'est pas une soumission que Paul parle ici, même s'il parle que tout genou fléchira. Mais il faut lire ce texte dans sa totalité, ce qu'il dit ici. Il est question d'honorer son nom. Et un peu plus loin, il dit « Tous proclameront que Jésus est le Seigneur ». Et en plus, regardons bien le texte. Il est dit que tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, vont honorer son nom et proclamer que Jésus est Seigneur. Donc quand on parle ici, tout genou fléchira, l'apôtre Paul parle ici que la proclamation de la bonne nouvelle est manifestée par ce geste. Rappelez-vous, les êtres dans les cieux qui proclamaient Jésus lors de sa nativité, les anges qui chantaient la naissance du Fils de Dieu, l'étoile qui amenait les rois mages vers l'enfant, tout ça ce sont des êtres dans les cieux. Et les êtres sous la terre, les morts qui sont revenus à la vie, Lazare qui parlait de Jésus à ses contemporains et qui par la suite, rappelez-vous, pendant cette semaine sainte, a suscité la curiosité des gens. Tout ce monde qui venait à la rencontre de Jésus à Jérusalem, apportant des branches d'arbres, c'était pour voir ce Jésus qui a ressuscité Lazare. Et au jour aussi où Jésus a donné son dernier soupir, c'est écrit aussi dans les évangiles qu'il y avait des morts qui sont revenus à la vie. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », il y avait des morts qui sont revenus à la vie. Tous ces gens-là proclament que Jésus est Seigneur. Ici, il y a quelque chose de très important, chers amis. Jésus ne reçoit la proclamation de n'importe qui. Tout le monde peut annoncer l'évangile, oui, mais la proclamation ici est différente. Seuls ceux qui s'agenouillent devant lui. Et c'est capital. Rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus avait refusé le témoignage du démoniaque, lui concernant quand il disait « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire ?» C'est le diable qui parlait à ce moment-là. « Je sais bien que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Qu'y a-t-il de mal dans cette phrase? Mais Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. « Tais-toi !» et sors de cet homme. Jésus ne reçoit pas de proclamation venant du diable. Le diable parle de Jésus, mais jamais il s'agenouillera devant le Christ. Alors je me pose la question à nous aussi. Nous tous ici, nous parlons de Jésus avec nos frères et sœurs, mais est-ce que nous nous agenouillons devant lui? Est-ce que nous acceptons qu'il est notre Seigneur? Telle proclamation est la vraie proclamation. Oui, tout le monde peut annoncer l'évangile de Jésus, mais seuls ceux qui s'agenouillent devant lui, celui qui accepte sa seigneurie, est recevable comme étant une offrande qui monte vers Dieu. Le fait que nous annonçons l'évangile, ce n'est pas une simple propagande de foi. Dans le christianisme, on ne fait pas de propagande de foi, comme certains le pensent, ou du prosélytisme. Mais c'est plutôt une proclamation, une confession de foi que nous faisons en public. À chaque fois que je proclame l'évangile de Dieu au monde entier, c'est pour dire « Moi, je m'adhère à ce que je vous dis maintenant. » Voilà notre grosse différence avec les autres. Nous ne faisons pas qu'annoncer en proclamant la bonne nouvelle aux gens. Nous adhérons à ce que nous proclamons. Et pour terminer, en guise de résumé, je prends l'histoire de Pierre lors de la pêche miraculeuse. Pierre s'est agenouillé devant Jésus et par la suite, qui lui a dit « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Vous voyez, il s'est agenouillé, il a accepté qu'il est son Seigneur et ce n'est qu'après qu'il est parti pour pêcher des hommes. Voilà aussi ce que Jésus attend de nous pendant cette semaine sainte. Amen.